Le monde au bout de la langue. Salutone Sébastien.
Salutone Catel.
Alors on va faire un petit tour du côté de l'Argentine puisque votre invité ce mois-ci s'appelle Attilio Orellana Rojas, avec l'accent s'il
tout
vous plaît.
Tout à fait.
Et donc comme son nom l'indique, il est d'origine argentine. Il est aussi président de l'association des professeurs qui enseigne la méthode directe en espéranto. Alors on va faire sa découverte avec vous.
Alors oui, alors donc on va faire un tour vers l'Argentine, pas tout à fait car... Attilio donc est né en Argentine, mais il vit un petit peu partout. Enfin, il vit officiellement actuellement aux Pays-Bas, mais justement comme vous l'avez dit, il est prof de par méthode directe, et donc il est appelé tantôt parfois en Australie, tantôt il vient presque chaque été en Bretagne donner des cours au stage de Plouézec. Et il va nous en parler justement de est-ce qu'il est argentin, néerlandais ou autre. Il va nous en parler dans un instant. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Plouézec. Saluton Attilio.
Saluton.
Alors quand as-tu appris et quand as-tu découvert puis appris l'espéranto?
C'était quand moi j'étais enfant parce que mon grand-père parlait espéranto. Donc il avait appris quand il était jeune, mais il n'y avait personne qui parlait espéranto à côté de lui. Et tous les petits-enfants ont écouté toujours dire notre grand-père qu'il parlait espéranto. Mais en vérité, il se rappelait que d'une phrase. C'était « La papilio flugas de floro al floro ». Donc ces phrases, moi j'avais entendu parler toujours. Et bon. Après ça, moi, quand j'étais 20 années, j'étais dans une autre ville pour faire mes études. Et là-bas, j'ai trouvé dans un journal une petite annonce qui disait qu'on pouvait apprendre l'espéranto. Et moi, parce que moi, je me rappelais de mon grand-père, moi j'ai eu le désir d'apprendre cette langue.
Et alors, donc tu apprends l'espéranto en quelle année?
C'était 1982, je trouve. Oui, c'était cette année, moi, ils font 20 années que moi j'ai appris l'espéranto.
Et donc tu étais donc à l'époque en Argentine?
Oui, j'habitais là-bas, j'habitais à la ville de Cordoba.
Et donc tu apprends l'espéranto et tout de suite tu l'utilises ou...
Non, c'était pas comme ça parce que moi, je commençais à apprendre l'espéranto dans un cours par correspondance. Mais ça m'ennuyait trop. Donc moi j'ai envoyé une lettre à mon professeur pour lui dire que je voulais pas apprendre ces langues parce que il me semblait pas intéressant du tout. Donc lui il m'a envoyé un livre et une revue qui s'appelle Heroldo de Esperanto. Et donc moi je lis les livres, je trouvais ce Heroldo de Esperanto très intéressant aussi. Et là-bas il y avait des adresses pour trouver des correspondants partout. Et moi, j'ai écrit une lettre. En vérité, moi, je n'ai pas écrit une lettre avec mes mots. Mais dans le livre, il y avait un modèle de lettre. Je copiais ça et j'envoyais ces lettres à quelqu'un. Donc, l'adresse, je trouvais là-bas, Heroldo d'Esperanto. Mais le problème, c'était qu'il m'a répondu la lettre. Et donc, moi, je ne savais pas quoi faire. Et bon, moi, je commençais à apprendre l'espéranto pour répondre ces lettres. Mais dans le livre, il n'y avait pas d'informations sur l'espéranto. Donc, je ne savais pas où on parlait ces langues. Mais j'avais dans la tête l'idée qu'on parlait dans un pays. Et donc, ces correspondants m'ont informé beaucoup de choses sur l'espéranto. Et dans la même année, moi, j'ai trouvé un groupe d'espéranto à Cordoba. Donc, c'était comme ça que moi, j'ai commencé à travailler là-bas avec lui, avec le groupe aussi.
Et tu le parlais avec ton grand-père, finalement?
Non, parce que mon grand-père est mort quand moi, j'étais enfant. Mais moi, j'ai appris l'espéranto quand moi, j'avais 18, 19 années.
Donc, avec son souvenir en tête.
Oui, avec un souvenir, oui.
Et donc après, tu restes en Argentine combien de temps? Qu'est-ce qui te pousse à partir un jour de l'Argentine? L'espéranto ou quelque chose complètement extérieur à l'espéranto?
quand moi j'ai reçu ce livre, Heroldo de Esperanto, il y avait aussi un article sur la méthode Che. Et bon, moi j'ai envoyé aussi une lettre à l'Institut d'Esperanto qui se trouve à La Haye pour dire que moi j'avais l'intérêt d'apprendre l'Esperanto et que moi j'avais lu cet article et je voulais savoir quelque chose sur la méthode. C'était aussi qu'en novembre de cette année, moi, j'ai visité le groupe d'Espéranto de Cordoba. C'était la première fois que moi je parlais espéranto, mais comme j'étais là, on m'a demandé de faire un cours d'espéranto là-bas. Mais moi je dis que moi je pouvais pas parce que moi je connais pas la langue. Mais finalement, on voyait que moi je connais la langue encore mieux que les espérantistes qui se trouvaient à Cordoba. Donc, l'année suivante, moi j'ai eu un cours et moi j'utilisais déjà les idées d'André Oche parce que moi j'avais déjà reçu un livre. Et bon, moi j'ai eu contact avec les gens de l'Institut depuis cette année quand moi j'ai commencé à apprendre l'espéranto. Et quand il y a eu le congrès universel à Cuba, je trouvais ces gens-là. Et donc, on m'a invité à travailler aux Pays-Bas et c'est pour ça que moi je suis là.
Canzonetto cae guitar, mi amo cae la mar, Dio iam sufficias por felicio. Tranquillezzo por pensar, multa tempo por revar, super mi viveblas Corcovado o Redentor belega vivo restu tia ci cum vicia macud mi gis la malnova flamo estingigios cae mi estinte trista sen credo iel a mondo rencon divin al mi signifis che mi trovis la felicion mia. Se credo iel a mondo rempon divin al mi signifis che mi trovis la felicion mia.
Tu t'es mis à voyager de pays en pays, je crois. Tu es devenu tout de suite président de IEI ou ça a été progressif?
Moi, j'ai commencé à avoir des cours en Amérique latine, au Brésil, en Argentine, en Bolivie, au Pérou. Et après ça, moi, j'étais aux Pays-Bas pour travailler à l'Institut. Et quand moi, j'étais là-bas, on m'invitait à faire un cours en Belgique. Et après ça, à Londres et en Allemagne. Donc, tout mon travail a commencé à être comme ça, des invitations par ici, par là. Et bon, c'est ça comme j'ai commencé à avoir des cours partout. Maintenant, moi, je travaille dans l'Institut. Moi, je suis le directeur de l'Institut. Et bon, c'est ça mon travail aujourd'hui.
Et alors, tu es directeur de l'Institut, mais je ne sais pas si c'est dans le cadre de l'Institut ou de UEA, l'Association universelle d'Espéranto, que tu fais le projet également Dialogue indigène.
Non, ça c'est quelque chose d'indépendant. Parce que, en vérité, Dialogue indigène n'a rien à voir, plus ou moins, avec l'espéranto. On utilise l'espéranto parce que ça c'est une des langues qu'on utilise dans notre travail, mais ça c'est indépendant du mouvement d'espéranto. Mais entre les espérantistes, il y a beaucoup de... non, pas entre les espérantistes. Dans le mouvement d'espéranto, moi, je travaille dans beaucoup de choses. Ça, c'est aussi l'Institut. À UEA, moi, je travaille aussi, je fais des travaux pour Agado Espero. Et encore pour la Commission pour le monde arabe, pour la Commission pour l'Amérique, pour la Commission pour l'Asie. Et pour Dialogue indigène aussi.
Et justement, tu peux nous dire quelques mots très très rapidement, comment expliquer un peu qu'est-ce que c'est Dialogue indigène et qu'est-ce que tu fais dans le cadre de ce projet.
Bon, avec Dialogue indigène, notre but, c'est de donner les moyens de communication à les peuples indigènes de tout le monde. Et donc, ces moyens de communication sont l'internet, le fax, le téléphone et tout. Mais pour se communiquer, on a besoin d'une langue. Donc, nous disons que l'espéranto, c'est la langue qu'on peut utiliser pour la communication. Mais même si on parle la même langue partout, des fois, on peut pas réussir à se communiquer, à avoir un vrai dialogue. Donc, nous travaillons aussi avec des spécialistes qui nous aident pour la transculturalité. Et donc, l'idée, c'est que chacun de nous a ses idées dans la culture de laquelle on vient, les choses qu'on fait toujours, notre langue, notre nourriture, et tout le folklore qu'on a. Mais pour travailler tout ensemble, on doit avoir une autre mentalité. C'est qu'on peut rester dans les limites de notre culture. Mais encore, on peut travailler dans un autre niveau. Donc, pour arriver dans ce niveau, on a des spécialistes qui travaillent avec nous. Et mon travail, c'est, moi je suis le directeur de pédagogique, j'ai sur ma responsabilité tous les groupes, tous les professeurs qui viennent pour donner des cours pour les gens qui parlent russe, français, anglais, espagnol. Et bon, c'est ça le travail.
Et justement, dans le cadre de ce projet, tu enseignes l'espéranto?
Oui. Moi, je prépare les cours, tous les cours, parce qu'on utilise une méthode spéciale pour ça. Ça, c'est suggestopédie. Et donc, mon travail, c'est faire tous les textes, tous les matériels qu'on va utiliser, les traduire aussi dans les langues que chacun de notre groupe a, donc l'anglais, français, espagnol et russe. Et encore, moi, je travaille avec mes élèves pour la phonétique, donc pour faire des exercices de phonétique et avoir une prononciation qui soit le plus internationale possible.
Donc, vous n'utilisez pas la méthode Che, justement, la méthode directe?
Non, dans ces projets, non. On utilise suggestopédie.
Tempo.
Cadre de IEI, donc tu continues encore aujourd'hui à aller de pays en pays lorsqu'on t'appelle, enseigner l'espéranto par la méthode directe.
Oui, c'est mon travail à l'Institut, moi je fais toujours ça. Et mon travail c'est aussi trouver des gens qui veulent faire mon travail aussi, parce que dans le monde il y a beaucoup de groupes, des organisations qui vont avoir un professeur d'espéranto qui vient d'un autre pays. Mais moi-même je ne peux pas être toujours dans tous les pays. Donc moi je cherche toujours quelqu'un qui peut faire aussi mon travail.
Et avec tant de voyages comme ça autour du monde, je pense que tu as dû également accumuler un grand paquet de souvenirs.
Oui, ça c'est magnifique. Pas seulement des souvenirs, mais des amis aussi. Parce qu'il y a partout dans le monde où j'étais, j'ai trouvé des gens qui sont vraiment sympas, qui sont vraiment très accueillants. Donc ça sont des choses qui restent toujours dans mon cœur.
Je sais que tu parles également beaucoup de langues, donc le français, l'espéranto, l'espagnol bien entendu et de nombreuses autres je crois. Tu es passionné des langues, en tant que passionné des langues et en tant que personne qui a beaucoup voyagé de par le monde, que représente l'espéranto pour toi ?
Bon, moi j'ai appris beaucoup de langues parce que moi j'étais vraiment passionné des langues toujours. Mais l'espéranto c'est très important pour moi parce qu'avec cette langue, moi... J'ai eu communication avec des gens avec, d'une autre façon, moi je pouvais pas parler avec ces gens-là. Par exemple, en Chine, au Japon, ou en Corée, je sais pas. Moi je parle pas les langues de ce pays-là. Mais connaître la culture et avoir un peu de communication avec ces gens, apprendre toutes les choses qui, de leur histoire, de leur culture, ça c'est vraiment très, très grand pour moi, pour mon cœur aussi. Pour ne pas être limité par ma culture comme argentin, mais pour voir qu'il y a un monde qui est gigantesque, où il y a beaucoup de différences, et toutes ces différences me plaisent beaucoup toujours.
Donc en quelque sorte, tu vis par l'espéranto, mais aussi par tous les pays et toutes les cultures que tu rencontres quotidiennement, je pourrais dire.
Oui, l'année dernière, moi j'étais dans un séminaire, donc dans ce séminaire, on m'avait demandé avec quelle culture tu as un sentiment plus fort d'être de ces cultures-là. Moi, j'étais en choc. Parce que moi, je peux pas dire que moi, je suis argentin. Moi, je peux pas dire aussi que moi, je viens de l'Amérique latine. Bon, c'est sûr que moi, je suis né là-bas, mais l'endroit où on est né, ça n'a rien à voir avec la mentalité qu'on a. Moi, je peux pas dire aussi, moi, que je suis européenne, parce que moi, je suis pas d'ici. Mais ma tête a changé tellement quand moi j'ai connu l'espéranto que maintenant je peux pas dire que moi je suis d'ici ou de là. Parce que il y a beaucoup de choses qui me plaisent de chaque culture. Et donc c'est pour ça que moi j'aime toutes ces différences de cultures qu'il y a dans le monde.
Aurais-tu un petit mot de la fin en espéranto pour nos auditeurs?
Mais mi esperas que ĉiuj povu iel alproksimiĝi al nia lingvo kaj al nia movado, ĉar tio vere multege riĉigas la vivon de ĉiuj kaj ankaŭ nian spiriton.
Dankon Atilio kaj ĝis.
Alors Sébastien, c'est un vrai citoyen du monde, cet Attilio. Hein.
En effet, bah, je sens, comme je disais au début, on ne peut pas vraiment dire qu'il est argentin, mais il est un petit peu de partout. Hein.
Alors vous l'avez rencontré dans des conditions particulières, en fait.
Alors oui, ce qu'il y a, c'est qu'on avait du mal à trouver un endroit calme pour faire l'interview. Il n'y avait pas de salle de libre, et puis finalement, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait dehors, dans un mini-golf.
On n'entend pas les balles.
Ouais, et il faut préciser que ouais, Attilio était très, très stressé avant l'interview. C'est celui de mes invités qui a été le plus stressé jusqu'ici parce que ben il considérait qu'il parlait pas français, puis bon ben on a pu voir que là en 15 minutes il s'est quand même bien débrouillé.
Exactement. Alors Attilio, c'est quelqu'un qui est très demandé, hein, qui parcourt le monde, on l'a entendu. Il y a quelques contacts par rapport à lui?
Alors par rapport à quelques-uns des projets dont il a parlé, alors il a beaucoup parlé d'une association qui est la principale association d'espéranto, l'association mondiale d'espéranto qui s'appelle UEA, Universala Esperanto Asocio. Donc je peux donner le site de cette association qui est www.uea.org, hein, www.uea.org. Donc là il y a des liens vers toutes les activités de cette association, dont nombreuses auxquelles participe Attilio en tant que responsable pour les relations avec l'Afrique, l'Asie, le monde arabe et plein d'autres. Et il a parlé également d'un projet que je trouvais très intéressant et dont on a déjà parlé, je crois, les années précédentes. C'est Indigena Dialogoi, les dialogues indigènes. Donc dont il nous a un petit peu parlé, et puis je peux vous donner le site pour en savoir plus sur ce projet, sur l'évolution comment avance le projet. Alors le site, c'est www.idnetwork en un seul mot, alors idnetwork.nl, donc www.idnetwork en un seul mot .nl.
Alors qui sera votre invité le mois prochain, Sébastien?
Eh bien, le mois prochain, notre invité sera Marcel Redoulez, hein, qu'on appelle souvent Marcelo en espéranto, qui vient de Bordeaux, qui fait partie d'un groupe de musique qui s'appelle La Campanoï, et qui nous racontera un petit peu sa vie au travers de l'espéranto.
Voilà, ce sera au mois de février. Gis, Sébastien.
Gis, Catel.